RCFM, Sabienza, Jean-Michel Fradigelli, Fabrice Fenouillère.
Fabrice, bonjour.
Jean-Michel, bonjour.
Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de Sabiens. Nous allons essayer d'en savoir plus sur les Vikings, la part de légende, la part de réalité. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Où allaient-ils? Et je vais vous laisser nous présenter votre invité, invité ce matin.
Est-ce que c'était vraiment un peuple de brutes sanguinaires qui ont découvert l'Amérique, naviguant sur des drakkars et coiffés de casques à cornes? On va en parler justement avec Alban Gauthier, historien, chercheur, auteur, maître de conférences en histoire médiévale à l'université de Caen, Normandie. On l'a au téléphone avant de le retrouver en Corse en octobre prochain à Galère.
Alban Gauthier, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Alban.
Bonjour.
Alors, les Vikings, c'est un peuple du Nord, mais est-ce que c'est vraiment un peuple ou est-ce que c'est un agrégat de peuples divers?
Alors, les Vikings, ça n'est pas un peuple, et ça n'est pas non plus, je dirais, un agrégat de peuples. Vikings, c'est un nom commun, ce n'est pas un nom propre. Un Viking, c'est quelqu'un qui fait une expédition Viking. C'est un Scandinave, généralement. Pour s'enrichir, pour améliorer sa condition et pour dominer dans sa propre société, cherche à s'enrichir en faisant une expédition maritime au loin, ou parfois plus près de chez lui d'ailleurs, et donc qui cherche à revenir plus riche en s'enrichissant par le commerce, par le pillage, par le mercenariat. Il y a plusieurs moyens de revenir riche au pays. Voilà, donc quelqu'un qui fait cela, c'est un Viking.
Et si on devait quand même situer une sphère à la fois historique et à la fois géographique, on est plutôt quand même au nord de l'Europe actuelle, entre le 8e et le 11e siècle, c'est à peu près ça?
C'est ça. C'est un phénomène qui commence dans le courant du 8e siècle, plutôt dans la deuxième moitié du 8e siècle. Donc, à l'époque de Charlemagne, pour nous donner une idée. Et puis qui se termine, alors c'est assez difficile de déterminer la fin de ce phénomène viking, mais disons, à la fin du 11e, début du 12e siècle, c'est à peu près terminé.
Alors, ça n'est pas un peuple, vous nous le disiez, vous nous le confirmiez. Est-ce que c'est une civilisation?
Ah, alors ça c'est une question, c'est une bonne question, parce qu'en fait, les vikings, c'est-à-dire les gens qui faisaient cela, hein, qui faisaient ce genre d'expédition, s'étant trouvés dans de nombreuses régions du nord de l'Europe et au-delà, ils ont pu imprimer leur marque sur un certain nombre de ces régions. Ils s'y sont éventuellement installés eux-mêmes. On a même pu parler d'une diaspora viking à travers les régions du nord de l'Europe. Et donc, tous ces descendants de vikings qui se sont installés dans les îles britanniques, en Normandie, en Russie, en Islande, eh bien, ils avaient des caractéristiques culturelles communes, si bien que effectivement, on peut éventuellement parler de civilisation, c'est peut-être un peu exagéré, mais voilà, il y a une diaspora et il y a un monde culturel viking. Voilà, on va dire ça comme ça, un monde culturel viking. Le terme n'est pas impossible.
Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'ils envahissent complètement nos écrans, les bouquins, jusque dans les mangas, hein,
les films, on a tout
les
vu,
séries,
oui.
On a tout vu, au point d'être devenu un mythe en Occident et au niveau mondial. Vous le dites d'ailleurs hein, quand vous intervenez. Alors parmi justement ces mythes ou ces réalités, drakkar, casque à cornes, peuple sanguinaire. Alors peuple sanguinaire, est-ce que c'était le cas?
Là encore, je vais dire oui et non. C'est pas un peuple, bon, peuple sanguinaire, c'est pas un peuple, mais est-ce qu'ils étaient sanguinaires? C'est des guerriers, hein, c'est des gens qui font la guerre, donc ils font pas dans la dentelle, bien entendu. Il leur arrive de terroriser les populations afin d'arriver à leur fin. Mais je dirais que en cela, ils sont pas particulièrement originaux. C'est-à-dire que les rois francs comme Charlemagne ou les rois anglo-saxons, ou les rois irlandais de cette époque ne sont pas des enfants de cœur non plus. Charlemagne est connu par exemple pour avoir fait exécuter en un seul jour 4500 saxons. On peut considérer ça aussi comme un acte sanguinaire. Donc ce qui frappait les populations, c'est que ça n'est pas qu'ils étaient particulièrement sanguinaires, c'est qu'ils exerçaient leur violence à l'encontre des églises. Et ça, évidemment, dans des sociétés christianisées, c'est quelque chose qui apparaissait
oui, ça passe
inacceptable.
Mal.
Inacceptable. Ça les choquait beaucoup.
Eux étaient païens.
Eux étaient païens, oui. Finalement.
Au début, oui, quand les premières attaques vikings ont lieu, au 8e et au 9e siècle, ils sont païens. Ils ont des religions traditionnelles de l'Europe du Nord. Mais assez rapidement, à partir du milieu, fin du 9e siècle, ils se mettent à se convertir au christianisme. Une bonne partie du 10e et tout le 11e siècle, les vikings sont plutôt chrétiens, hein, sont devenus des chrétiens entre-temps.
Mais
ça n'a pas empêché qu'ils continuent à faire des expéditions et à piller les régions auxquelles ils s'attaquent.
Ils avaient les dieux des nordiques, en fait, de tous les pays du nord de l'Europe.
Oui, voilà, c'était des dieux comme Odin, Thor, Freyr, Freya, Frigg, enfin, il y a tout un panthéon. Alors, c'est une religion qu'on connaît assez mal en réalité, parce que elle nous a surtout été décrite par des auteurs beaucoup plus tardifs en Islande au XIIIe, XIVe siècle, XIIe, XIIIe, XIVe siècle, à une époque où la société islandaise et scandinave en général était chrétienne depuis longtemps. Donc, quelle est la part de réinvention de véritable transmission des croyances qui pouvaient exister avant la christianisation, c'est assez difficile à dire, malheureusement.
Et on l'abordait tout à l'heure dans la série de questions ou de vrais-faux qu'il faudrait parvenir à démêler. Ce sont de grands navigateurs, ça je crois que vous pourriez le confirmer. Sans boussole, à bord de Drakkar ou pas justement? Il y a aussi là une appellation particulière sur ce bateau.
Alors il faut oublier le mot Drakkar.
Je sais.
Il faut oublier le mot Drakkar, c'est un mot qui a été inventé au 19e siècle. C'est un mot qui n'est utilisé bizarrement que dans le monde francophone. Si vous lisez des choses sur les vikings en anglais ou en allemand, personne ne parle jamais de Drakkar. C'est vraiment un mot bizarre qui a été inventé au 19e siècle. Alors, qui a été inventé à partir d'un terme qui existe dans la langue des vikings. La langue des vikings, c'était le norrois, c'est-à-dire la langue qui était parlée en Scandinavie à cette époque. Des poèmes que nous avons conservés comparent volontiers les bateaux à des animaux. Dans un poème, on va dire « l'étalon de la mer s'enfuit au loin » ou bien « le fier destrier des flots ». Enfin, voyez, ce genre de choses. Et alors, parfois, on compare le navire à un dragon des mers. Et le mot pour dire dragon, c'est dreki, en norrois. Au pluriel, ça fait drekar. Et au XIXe siècle, à partir d'une transcription suédoise, il y a des auteurs français qui ont inventé le mot drakkar. Mais voyez, c'est quand même extrêmement tiré par les cheveux.
Alors avec ces bateaux...
En fait, ils appelaient essentiellement leur bateau skip, ce qui veut dire navire. Puis ils avaient toute une série de mots ensuite techniques pour désigner les différents types de bateaux.
D'accord. Alors avec ces bateaux qui vraisemblablement étaient d'excellents navires, ils sont allés dans beaucoup d'endroits, ils sont même allés très loin.
Oui, ils sont allés très loin. Alors, c'est des bateaux qui ont un tirant d'eau assez faible, c'est-à-dire qu'ils s'enfoncent assez peu dans l'eau, ce qui permet assez... Et en plus, ce sont des bateaux qui peuvent être propulsés, qui peuvent être mus à la rame ou à la voile. Et donc, ce sont des bateaux qui sont très maniables et qui peuvent aller sur des... qui peuvent effectuer des types de navigation très divers. On les retrouve en mer, mais on les retrouve aussi sur les fleuves. Ils ont remonté la Loire, la Seine, le Rhin, les fleuves de la plaine russe. Ce sont des bateaux qui sont relativement légers, donc on peut les transporter à dos d'homme sur de courtes distances pour rejoindre un autre bassin et descendre des fleuves, hein, ce qui fait qu'on les retrouve jusqu'en mer Noire ou jusqu'en mer Caspienne. Ils ont descendu les grands fleuves de la plaine russe. Et puis, on les trouve aussi dans l'Atlantique Nord, jusque pas dire sur le continent américain, parce que la seule preuve archéologique que l'on a se trouve à Terre-Neuve, ce qui est en Amérique, mais qui n'est pas
le continent,
à proprement parler sur le continent. Mais on a retrouvé des preuves archéologiques d'une présence scandinave autour de l'an 1000 à Terre-Neuve. Donc ça, c'est absolument certain qu'ils sont allés jusqu'en Amérique. Et puis on les retrouve aussi en Méditerranée, alors de manière plus épisodique.
Justement, alors de la Méditerranée, on en parlera dans un petit moment. Alors on parle de cette découverte de nouvelles terres à cause d'un marin groenlandais qui s'était plus ou moins perdu. Et ensuite, c'est le fils d'Éric le Rouge qui a voulu vérifier ses dires s'il y avait vraiment une terre de l'autre côté.
Voilà.
En gros, c'est ça.
L'expression de l'autre côté, évidemment, c'est notre perception des choses.
Oui, évidemment.
Pour eux, c'était tout simplement un peu plus loin que la terre précédente. En effet, autour de l'an 1000, Éric le Rouge, donc, qui est un Islandais, s'est installé au Groenland. Vraiment à la pointe sud du Groenland, il a établi un petit habitat où se sont installés des Scandinaves, des colons scandinaves, et il se trouve que son fils, d'après des textes plus tardifs du XIIIe siècle, serait allé un peu plus loin sur une terre que les textes appellent le Vinland, qui peut vouloir dire le pays de la vigne ou le pays des prairies. Et ce Vinland pourrait correspondre effectivement à Terre-Neuve, voire à l'estuaire du Saint-Laurent.
500 ans avant Christophe Colomb, il faut le préciser.
Oui, voilà, c'est ça. Alors, oui, mais en même temps, ils n'avaient pas du tout l'impression de découvrir un nouveau continent, c'est pas du tout dans cette perspective-là. La raison probable pour laquelle ils sont allés jusque-là, c'est que quand on est au Groenland et qu'on est un Viking ou qu'on est un quelqu'un qui se déplace en bateau, il y a une chose qui manque à la fois en Islande et au Groenland, c'est le bois. Et pour aller se procurer du bois, il n'y a pas 36 solutions. Soit on retourne jusqu'en Norvège ou jusqu'en Écosse pour se procurer du bois, ou alors on essaie d'aller voir s'il y a quelque chose plus loin, un peu plus au sud.
Et c'est ce qu'ils ont fait.
Nous, on a l'impression que en allant vers l'Amérique, ils sont allés vers l'ouest. Mais pour eux, je pense qu'ils sont allés vers le sud. Dans leur idée. Hein. Quand on est au Groenland et qu'on va vers le sud, on tombe sur le continent américain. Ils sont allés vers le sud parce qu'ils savaient qu'en allant vers le sud, ils avaient des chances de trouver du bois.
Et justement, Alban Gauthier, dans ces expéditions vikings, on recherchait quoi ? C'est avant tout du commerce, de la piraterie, s'installer sur de nouvelles terres. Là, on parlait du Groenland ou du Vinland un peu plus tard. Il y a un peu tout ça mêlé ?
Oui, c'est tout mêlé. C'est-à-dire que, comme je le disais au début, on cherche surtout à s'enrichir. En fait, c'est ça l'essentiel.
C'était pas un esprit de colonisateur comme on a pu retrouver des siècles après.
Non, pas véritablement. C'est-à-dire que on peut s'installer dans d'autres terres.
Hein. Ce qu'ils ont fait, d'ailleurs.
On peut conquérir des terres, mais c'est-à-dire qu'il faut bien comprendre que la Scandinavie de l'époque, aujourd'hui l'Europe du Nord, on a tendance à associer l'Europe du Nord à des images de prospérité, de richesse. Au 8e, 9e siècle, l'Europe du Nord, c'est vraiment une région extrêmement pauvre, à l'intérieur de laquelle, quand on veut être un chef et qu'on veut avoir autour de soi des hommes qui soutiennent votre pouvoir, qui soient, je dirais, vos fidèles, et il faut les récompenser. Et pour les récompenser, les productions locales du Nord sont extrêmement maigres, extrêmement pauvres. Donc le mieux, c'est d'aller les chercher ailleurs. Alors on peut aller les chercher en faisant du commerce, en allant vendre et acheter des produits et s'enrichir par le commerce, mais on peut aussi s'engager comme mercenaire auprès d'un prince étranger. On peut aussi piller les côtes d'une autre région. ou faire de la piraterie en mer, hein, arraisonner des navires et s'emparer de leur cargaison. Et puis on peut essayer d'aller tenter sa fortune ailleurs avec ses hommes, dans des terres plus hospitalières, plus riches, plus prospères.
Leurs biens les plus importants, c'était l'ivoire, je crois, hein, vous le dites parfois, et la fourrure.
Oui, oui, oui. Ouais. Alors pour le Groenland, par exemple, l'une des raisons pour lesquelles ils sont allés au Groenland, c'est probablement pour l'ivoire de morse. Il y avait une demande en Europe d'ivoire, en particulier pour faire des objets liturgiques. Et donc, il fallait fournir cette demande, hein. Il y a un appel, il y a une demande. Donc il faut qu'il y ait une offre qui lui réponde. Et ils sont allés en direction du nord, là où il y a des morses, pour aller chercher cet ivoire. Vous voyez, chez les Vikings, il y a ce mélange de prédation, on va dire, hein, prédation sur la nature, prédation sur les humains, sur les autres sociétés, et d'enrichissement par le commerce. Un exemple typique, l'un des principaux commerces des Vikings, c'est le commerce des esclaves. C'est vraiment une activité à laquelle ils se livrent à une échelle assez importante. Et donc, ces esclaves, on peut parfaitement, par exemple, aller faire une razzia sur les côtes de l'Irlande ou sur les côtes de la mer Baltique, sur les côtes sud de la mer Baltique, prendre des esclaves et ensuite aller les vendre sur un marché franc ou byzantin. Le mélange entre la piraterie, le pillage et le commerce est tout à fait possible. Hein, quand on est un Viking, qu'on va jusqu'à Noirmoutier, par exemple, près de Nantes, et qu'on s'empare de tonnes de sel, on va pas consommer l'intégralité du sel. Si on remplit ses bateaux de cargaison de sel, le mieux, c'est d'aller dans un marché et de vendre le sel.
Ils avaient donc l'esprit du commerce. On va faire une petite pause, si vous le voulez bien, Alban Gauthier. On se retrouve tout de suite après les Tiamadialesi.
Hanno teso sotto le stelle, a guidare per cuscino, accompagno conturi e spiscine. Per le strade di un mondo, canterine rudo verso, chi la doce muore l'universo. Compagno girandone, fra le muri e mio pane, mi contatto con giuro e in brama. Sia spesso si infelice, cerca di veri domani, ancora un'aria di lana. E sicuro di cantare, con conosci l'armonia, fa una strinda ultima poesia. Un discurso da issa mossa, chi t'ha portato di qui, a tutti i vantari tuosi.
L'Alto Brado, i Tiamadialesi.
Sabienza, Jean-Michel Fradicelli, Fabrice Fenouillère.
Fabrice Fenouillère, un descendant des Vikings.
Et vous, avec aussi, votre taille, à mon avis aussi.
Ça se voit, oui, effectivement. Alors, Alban Gauthier, on sait depuis Astérix et les Normands que la Normandie s'appelle comme ça à cause des Vikings, même si la bande dessinée en elle-même est une aberration historique.
Oui, ça c'est pas grave. L'important c'est que la bande dessinée soit drôle.
Oui. Alors, la Normandie, c'est eux, mais ils ne se sont pas contentés de rester là. Ils sont descendus et ils ont fini par entrer en Méditerranée.
Oui, alors c'est assez anecdotique. Hein. Il ne faut pas imaginer des hordes de Vikings débarquant en Méditerranée. Il y a en particulier une expédition qui est attestée aux environs de 860. Alors, avant d'arriver en Méditerranée, il faut savoir qu'il y a eu quand même pas mal de pillages sur la côte ouest de l'Espagne et du Portugal actuel. Hein. Il y a eu un certain nombre de pillages sur, disons, la façade atlantique de l'Espagne et du Portugal. Et puis, il y a une expédition qui est bien attestée, qui a passé le détroit de Gibraltar, qui a pillé une ville dans ce qui est actuellement le Maroc, qui a probablement passé l'hiver en Camargue, et qui a pillé une ville italienne pas très loin de Livourne. Mais voilà, on ne sait pas grand-chose d'autre sur cette expédition.
On dit que les Vikings sont passés par la Corse. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Rien ne nous le prouve. C'est pas impossible. S'ils ont pillé Livourne, enfin, c'est pas Livourne même, c'est Luna, pas loin de Livourne. Mmh. C'est pas très loin, c'est juste à côté. Hein. Donc c'est pas impossible que des bateaux vikings soient passés pas loin de la Corse. Mais à ma connaissance, il n'y a pas de preuve qui puisse permettre de l'affirmer.
Il n'y a aucune trace archéologique du passage des Vikings en Corse.
Pas à ma connaissance. Et oui. De manière générale, en Méditerranée, on n'a pas de traces archéologiques de ce passage. Hein. Ce sont des sources écrites, souvent plus tardives. Qui mentionne cette unique expédition.
Oui, puis vous parliez d'un petit groupe, oui, c'est quelques bateaux seulement,
voilà,
peut-être qu'un seul.
C'est une expédition,
oui.
c'est une flotte. Ouais. Alors combien de bateaux? Je ne sais pas, peut-être une dizaine, une vingtaine de bateaux qui ont tenté leur chance en Méditerranée. Alors en revanche, ce que l'on a de manière beaucoup plus certaine et beaucoup plus importante, c'est des Vikings. Qui sont, enfin, des Scandinaves faisant une expédition, donc des Vikings, ceux qu'on appelle les Varegs, qui sont entrés au service de l'empereur byzantin, donc à Constantinople, aujourd'hui Istanbul, et qui ont formé un régiment à l'intérieur de l'armée byzantine. Et donc là, l'empereur byzantin ensuite a envoyé ses soldats se battre dans plusieurs terrains d'opération. En Méditerranée, mais en Méditerranée orientale, c'est-à-dire dans la mer Égée et peut-être même jusqu'en Sicile. Voilà. Mais ça, c'est des mercenaires cette fois-ci. Hein. Ce sont des gens qui n'opèrent pas pour leur propre compte, mais qui sont entrés au service d'un souverain étranger, en l'occurrence l'empereur de Constantinople.
Alors, est-ce que ce sont ces mercenaires ou les Vikings commerçants qui ont formé au milieu du XIe siècle le royaume des Deux Siciles, dont on a beaucoup parlé ensuite dans l'histoire?
Alors ça, c'est encore autre chose. Ce sont des habitants de l'actuelle Normandie, plutôt de l'ouest de la Normandie, du Cotentin.
Donc des descendants des Vikings qui s'étaient installés.
Est-ce que c'était des descendants des Vikings? Peut-être, peut-être pas. C'était peut-être des gens qui descendaient des habitants gallo-romains, puis francs de cette région. En tout cas, au XIe siècle, il y a un certain nombre de Normands, Normands au sens habitants de la Normandie, qui ne sont plus des Vikings parce que ce sont des gens qui parlent plus le norrois mais qui parlent l'ancien français. Ils sont chrétiens. Ce sont des gens qui ont une organisation sociale qui est celle de la France du Nord à l'époque. Enfin, c'est plus du tout des Vikings, vous voyez. Et il y a plusieurs de ces Normands au sens habitants de la Normandie qui ont tenté leur chance à l'étranger. C'est l'époque aussi de la conquête de l'Angleterre par les Normands. On retrouve ensuite des Normands en Écosse, en Irlande, en Sicile, dans le sud de la botte italienne, et il y a pas mal de Normands aussi qui participent à la première croisade.
Donc ils ont fait souche dans beaucoup de pays.
On les retrouve à plusieurs endroits, oui, c'est Normand, mais c'est Normand au sens de Normandie. Vous voyez, c'est plus vraiment des Vikings, hein. Je crois qu'il faut séparer assez nettement les deux groupes. Hein. ce sont des gens qui n'appartiennent plus au monde de la culture viking dont je parlais tout à l'heure, si même ils y ont jamais appartenu.
Et cette culture viking dont vous nous parlez, à quel moment a-t-elle disparu des pays nordiques ?
Ben, d'un certain côté jamais, dans le sens où l'islandais, par exemple, la langue islandaise actuelle est extrêmement proche du norrois de l'époque. C'est une langue qui a assez peu évolué et qui permet à un Islandais aujourd'hui, avec un petit effort, de lire des textes du Moyen-Âge sans trop de difficultés. On a continué à utiliser les runes en Scandinavie jusqu'à la Renaissance et même un peu au-delà. On a continué à composer de la poésie comparable à celle de l'époque viking jusqu'en plein XIVe siècle.
Alban Gauthier, une question qui nous brûle les lèvres avec Jean-Michel, je vous la pose pour tous les deux. Les femmes dans cette ère viking ou cette civilisation avec des guillemets, un poste important, une place importante ?
Ça reste des sociétés patriarcales.
Des guerrières, en une minute, vous avez une minute chrono pour nous expliquer si c'était de vraies guerrières.
Il y a très peu de sources qui permettraient d'affirmer qu'il y a eu des guerrières. Voilà. Moi, je reste très prudent. On reste quand même dans des sociétés qui sont patriarcales.
Il n'y a pas eu de guerrières qui aient marqué l'histoire.
Dans la légende, oui.
Oui, dans la légende.
Dans la légende. Mais est-ce qu'il y en a eu réellement ? Eh bien, la question reste ouverte.
D'accord. Eh bien, en moins de deux minutes.
Et les enfants ?
Pardon ?
Et les enfants ?
Et les enfants, je ne saurais pas quoi
dire. Est-ce qu'ils étaient formés pour être des guerriers, pour être des commerçants ?
La plupart des habitants de la Scandinavie ne sont pas devenus des vikings. La plupart des habitants sont restés des paysans qui cultivaient la terre. Effectivement, quand on appartenait à un groupe d'élite, disons, à une famille de chefs, on pouvait éventuellement préparer ses enfants à prendre la succession. Mais la plupart des Scandinaves ne sont pas devenus des vikings.
Ouais,
ils sont restés chez eux et ils ont
travaillé la terre. Voilà. Alban Gauthier, j'espère que nos auditeurs en savent désormais davantage sur les vikings. Nous, en tout cas, on a trouvé ça passionnant.
Ouais, passionnant.
Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous de cette invitation.
Merci Alban.
Merci Fabrice et à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.